culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, les deux Bénédictes. Bonjour.
Bonjour Marie.
Bonjour Marie.
100 millions de touristes internationaux en 2025. La France confirme son rang de première destination touristique. En dehors des grands sites archi-connus, il y a des pépites locales discrètes à découvrir. Au sud-ouest de notre département, Mauges Communauté a lancé une démarche très ambitieuse et inédite. Faire reconnaître l'état d'esprit des Mauges comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors, l'esprit des Mauges, le patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est quoi ? Avec nous pour en parler, Anne-Roland Boulestreau, professeure d'histoire moderne à l'Université catholique d'Ouest, et Olivier Gabory, expert en patrimoine et environnement, chargé de mission à Mauges Communauté. C'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Reconnaître le caractère unique d'une région française à travers ses traditions et ses valeurs, voilà bien une démarche exceptionnelle lancée par Mauges Communauté. À vous, Bénédicte.
Dans le paysage riche et diversifié de la France, chaque région possède son identité culturelle. Et parmi elles, les Mauges se démarquent nettement. En 2025, la communauté de communes des Mauges a choisi d'investir 85 000 euros auprès de l'association Témonia, ONG accréditée par l'UNESCO, conseil expert en patrimoine culturel immatériel.
L'UNESCO, on y va. L'UNESCO, c'est quoi ? Allons-y. L'UNESCO, c'est une organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'UNESCO œuvre pour renforcer les liens entre les peuples à travers justement la culture, l'éducation et les sciences.
Un classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est un vrai défi. Le territoire s'interroge sur cette possibilité. Avant de tenter de définir cet état d'esprit, Anne-Roland Boulestreau, vous êtes historienne et vous faites partie du comité scientifique mis en place pour ce classement. En quelques chiffres, en quelques noms, les Mauges, c'est quoi ? C'est où ?
Alors, en quelques chiffres, en quelques noms. Les Mauges, c'est une partie de l'Anjou, le sud de l'Anjou, qui est plutôt bien connu des historiens parce que c'est un territoire qui est riche, qui a une longue histoire à la fois de commerce, de production manufacturière, 17e, 18e siècle, des petits bourgs pas très connus, une campagne, et puis bien sûr c'est la guerre de Vendée, c'est-à-dire que les Mauges, c'est le territoire qui a été le plus sillonné par les colonnes infernales et qui a souffert le plus de ces guerres civiles.
Est-ce que vous pourriez donner quelques noms de villages, de villes, des Mauges ?
Alors, le centre historique, c'est bien sûr Beaupreau. Hein. Et puis, vous avez Saint-Florent-le-Vieil, une grande rivalité traditionnelle, d'ailleurs, entre Saint-Florent-le-Vieil et Beaupreau. Et puis, à la fin des guerres de Vendée, Cholet aussi. Hein. Voilà, ça, c'est les trois grandes villes, les trois grands pôles administratifs, économiques. Puis, à côté de ça, vous avez une densité comme rarement explorée, hein, une densité de petits villages ou de bourgs, comme Viers, par exemple, ou bien... Montrevaux, ou bien vous avez le pain aux Mauges, ou bien vous avez Rousset.
Alors cet état d'esprit, c'est quoi ? Olivier, Gabory, peut-être ?
Vu de l'extérieur, on nous dit toujours, les Mauges, c'est particulier. Il se passe quelque chose de différent. En fait, c'est souvent davantage les personnes extérieures aux Mauges qui disent « Dans les Mauges, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. » Plus que les personnes des Mauges elles-mêmes qui se définissent. Et donc, traditionnellement, c'est Anne-Roland le connaît mieux que moi, mais c'était un territoire qui était très chrétien. La foi a cimenté la reconstruction après les guerres de Vendée. Hein, il y a vraiment eu un effort très important. C'est un territoire qu'on qualifie aussi souvent, du moins ses habitants, de besogneux, d'entreprenants. On parle aussi souvent de communauté de villageois, de citoyens. C'est pas en agriculture, ça s'est vu jusqu'à une période récente et encore aujourd'hui. C'est une agriculture de groupe. Il y a beaucoup de kuma. On met en commun le matériel agricole, par exemple. C'est lié à l'élevage bovin qui demande beaucoup de solidarité par rapport à la viticulture, par exemple. Et donc, ce sont souvent les termes qui ressortent pour qualifier des mauges. Et l'idée c'est de cette démarche, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que cet état d'esprit, c'est une réalité? Ou est-ce que c'est une idée reçue qu'on nous colle comme ça? Et pour ça, on va essayer de le demander aux habitants eux-mêmes.
Donc, c'est ce que vous allez demander à Témonia.
Alors, Témonia, c'est une association, comme vous l'avez dit tout à l'heure, spécialisée dans le patrimoine culturel immatériel. Donc, on est dans le champ de l'ethnologie, la sociologie. Et donc, ce sont des personnes qui sont habituées à faire ressortir ce qui fait patrimoine pour les habitants eux-mêmes. Là, la démarche qui est entreprise, c'est qu'on ne va pas dire l'état d'esprit, c'est ça, d'après les experts. Ce sont des milliers de questionnaires, on l'espère, des milliers de témoignages qui vont revenir à des habitants et de leurs hôtes et qui vont peut-être converger dans une ou plusieurs directions et qui vont nous dire le patrimoine immatériel des Mauges, ben, ça ressemble à ça et ça. Et si tout va bien, à terme, on fera reconnaître ce patrimoine-là, au même titre qu'on peut faire reconnaître un monument qui serait remarquable. On part du principe que dans les Mauges, s'il y avait un monument remarquable, bah, on l'aurait vu, ça se verrait. Quoi.
Et le classement aurait déjà eu lieu.
C'est ça. C'est plutôt discret. Les guerres de Vendée sont passées par là avec les colonnes. Il y a eu beaucoup de choses de détruites. Mais peut-être que notre monument patrimonial, il est dans la mentalité des gens, dans cet état d'esprit qui est peut-être plus collectif qu'individuel.
Alors, on reviendra après, justement, à cette démarche auprès de Témonia. Mais, justement, chaque village que vous avez mentionné tout à l'heure ressemble à l'autre, finalement. Est-ce que ça peut avoir une influence sur cet esprit des Mauges?
C'est difficile comme question, mais effectivement, ce qui est intéressant, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire partie de ce comité scientifique, d'abord parce que c'était piloté par Mauges Communauté, parce que je connais bien Olivier et la façon de travailler, c'est la méthode, c'est-à-dire, c'est un peu comme l'historien. Tu vas dans les fonds d'archives, tu vas ramasser, tu vas récolter finalement les archives, sans idée préconçue, parce que sinon, évidemment, si tu as déjà l'hypothèse, eh bien, autant rester chez toi. Et là, effectivement, la démarche, c'est véritablement d'aller vers les habitants, les villages, les villageois. Est-ce que, effectivement, ces villages se ressemblent? Est-ce qu'ils se distinguent? Quelles forces apparaissent, justement, dans ces villages, dans cette ruralité? Et je trouvais que, finalement, c'était un peu le même métier que je faisais dans les archives. Tu prends tout. Tu regardes, tu prends le temps, tu essayes de proposer ensuite des statistiques, de faire ressortir finalement ces espèces de pépites, ce que j'appelle les pépites des archives. Et là, bah, ça va être la même chose. On va effectivement être dans une aventure où rien n'est préconçu. Et c'est bien ça l'avantage.
Et vous avez une idée déjà de ces pépites, enfin de ces...
Alors, j'ai des idées par rapport à ce que je connais du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. En particulier, c'est vrai que, je vous le disais, le territoire des Mauges est associé à la Vendée, mais en réalité, ce territoire des Mauges que je connais bien, que j'arpente au XVIIe, au XVIIIe siècle, on se rend compte qu'il est extrêmement ouvert, extrêmement industrieux. On a souvent l'impression que les Mauges, c'était une terre pauvre et que c'est le 19e siècle qui a enrichi ou les paysans ou les artisans. Absolument pas. Hein. On voit très bien des Mauges qui sont intégrées dans du commerce national, en particulier par le commerce des bovins dont Olivier a parlé. Et on voit effectivement une autre caractéristique de ces commerçants qui sont plutôt aisés, bien sûr il y a des pauvres, hein, mais plutôt aisés, c'est la force de la communauté, de la collectivité. Pour trouver, par exemple, quand vous êtes marchand de bestiaux au XVIIIe siècle et que vous voulez vous lancer dans un commerce national aussi ambitieux que d'aller jusqu'à la capitale, eh bien, il faut vous appuyer sur des forces locales, souvent la famille d'ailleurs, en tout cas les notables, et ces petits notables vont s'organiser en réseau, et on voit ainsi la réussite, le succès de ce pays. Et en même temps, La discrétion sont aussi des taiseux, ces commerçants qui réussissent. Et comment je sais, moi, qu'ils ont réussi? Ils ne le disent pas, ils ne le proclament pas, sauf que dans leur inventaire après décès, c'est-à-dire dans la description de leur richesse au moment de leur mort ou au moment de la mort d'un conjoint, le notaire au XVIIIe siècle se déplace dans les métairies et là, tu te rends compte qu'effectivement, ils ont investi dans des objets à la mode qui montrent leur réussite. Un exemple très simple, les horloges, les miroirs. Et vous les trouvez où? Dans des inventaires après décès de ces marchands de bestiaux qui travaillent en réseau.
Et ça, c'est très particulier aux Mauges. C'est pas vrai dans d'autres régions?
Alors, c'est moins vrai en Bretagne. La Bretagne, les paysans et les marchands ont des contrats qui sont beaucoup plus limités, moins axés sur la confiance avec le propriétaire. Et on se rend compte que, par exemple, un bail qu'un métayer va signer pour 7 ans, pour 8 ans, pour 9 ans, dans les Mauges, il peut être conduit comme ça pendant 80 ans, 100 ans. J'ai même vu, parce que j'ai travaillé sur un chartrier qui remontait au 15e siècle, j'ai même vu des familles qui, du 15e siècle à la Révolution, et même au-delà d'ailleurs, je les ai retrouvées après, vont exploiter la même métairie qu'ils sont en train de louer. En Bretagne, c'est beaucoup plus difficile parce que les baux sont souvent défavorables à ces bailleurs. Donc on voit bien qu'il y a une stabilité économique voulue par le propriétaire également, qui voit son intérêt. C'est-à-dire, si tu as toujours le même interlocuteur, bon, finalement, il connaît bien ses terres, il les exploite bien et l'argent rentre. C'est donnant-donnant.
Et c'est toujours valable aujourd'hui, en fait. Il y avait un article du Monde qui disait ni pauvre, ni riche, ni chômage, ni...
Pas de RSA, pas d'ISF. Dans la sociologie, voilà, c'est ce qu'on a trouvé en préparant le sujet, que 70 000 habitants sur un territoire égalitaire, ni pauvre, ni riche. C'est-à-dire pas de RSA, pas d'ISF. C'était l'ISF à l'époque. C'est toujours vrai?
Alors, c'est à la fois vrai, puis à la fois c'est artificiel. C'est-à-dire, je crois que l'enquête de cette journaliste s'est faite après la publication de chiffres sur les communes d'une certaine taille, au-delà de 15 000 habitants, je crois. Et donc, quand les communes des Mauges, les 64 communes historiques, se sont concentrées en 6 communes, à l'échelle des anciens cantons, en fait, là est apparue cette histoire de communes les moins inégalitaires de France. Donc, ça existait précédemment, mais ça ne rentrait pas dans les statistiques puisqu'elle faisait trop peu d'habitants. Et donc oui, c'est toujours, c'était une forte caractéristique, ça c'est certain. Et ça le reste encore, c'est un territoire.
C'était une caractéristique historique, comme on a parlé, Anne. Et c'est toujours, c'est toujours l'actualité.
Et l'autre caractéristique historique, là, cette fois, on repart dans les archives et je vous ramène dans les archives du début du 19e siècle, Napoléon. Après les guerres de Vendée, propose une espèce d'indemnisation aux métayers qui avaient perdu leur métairie. Et il propose une assurance qui est assez inédite à l'échelle de la France, où pour chaque métairie reconstruite, l'État versera le cinquième des frais engagés par le métayer à une condition. Il fallait que le métayer déclare ses frais auprès des administrateurs de l'État. Et que vont faire les métayers? Eh bien, ils ne vont pas déclarer les frais, donc ne vont
donc
pas
ils refusent
toucher.
L'aide de l'État.
Voilà. C'était une solidarité communautaire, c'est-à-dire on préférait passer par la famille,
locale.
Par la communauté locale, plutôt que d'aller frapper à la porte de l'État qui, finalement, était associé à la guerre civile.
Est-ce que la géographie des Mauges a quelque chose à voir avec cet état d'esprit? C'est un pays de bocage?
Oui, alors c'est une bonne question, ça ferait partie justement de l'analyse, parce qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé sur, par exemple, la nature du sous-sol géologique et les intentions de vote aux élections, etc., ou les réalités des votes, entre les territoires blancs, calcaires ou armoricains. Donc ce qui est certain, c'est que les Mauges, c'est une entité géomorphologique, c'est une même entité, on est sur le même socle schisteux, granitique, avec un peu d'argile. Voilà. Alors après, est-ce que ça se retrouve dans l'état d'esprit, on pourrait dire finalement du segréen, qu'il est exactement ainsi sur la même entité géomorphologique, et pour autant, l'histoire est différente.
Par exemple, au début du 19e siècle, ou tout au long du 19e siècle, les érudits qui étaient pro-vendéens, ou les érudits qui étaient contre la Vendée, soulignaient le bocage. Et tous soulignaient quoi ? L'horizon borné des paysans. C'est-à-dire que tu sois pro-Vendée ou contre la Vendée, tu soulignais cette espèce d'idée d'entre-soi excessif au bocage, sans voir ce que le bocage apportait à l'agriculture comme richesse et comme protection aussi pour les communautés.
C'est-à-dire que les Mauges, c'est un pays de bocage. Parce qu'on parle Mauges-Vendée et c'est pas la même chose pourtant.
Pas tout à fait, non. Pas tout à fait c'est la ça. Même chose.
C'est... Alors, c'est le terme de bocage qui a été repris récemment, c'est-à-dire qu'il y a un bocage physique, un territoire qui est notamment composé de haies.
Et de chemins creux.
Voilà, de chemins creux qui visent à retenir l'eau, hein, tout simplement. Le bocage protégeait le bétail, comme disait Anne. Et puis, il y a l'invention du bocage moderne par la Vendée, qui est une réalité socio-historico-politique, on pourrait dire. Ça, c'est deux choses différentes qui induisent un peu une confusion.
Et que les érudits du XIXe siècle vont justement provoquer d'une certaine manière, en soulignant à tel point l'horizon borné, c'était une façon d'associer les paysans vendéens à une révolte qui se mettait contre la Révolution, ce qui n'est absolument pas vrai.
Parce qu'ils étaient complètement bornés, ils ne voulaient pas voir l'avenir.
Ils n'avaient rien compris et c'était les métayers entre eux et finalement sans rien comprendre. Ce qui n'est absolument pas la guerre de Vendée.
Alors, on va faire une pause musicale. Ça vous va ? On va faire une petite pause musicale, restez avec nous, parce qu'ensuite on va découvrir comment Mauges Communauté concrètement va convaincre l'UNESCO, et inscription ou pas, on va se poser la question de quelles vont être les retombées de cette candidature. Alors notre pause musicale, c'est Last Train to London par Electric Light Orchestra. Vous êtes toujours sur Radio Campus avec nos invités Anne-Roland Boulestreau, historienne et professeure d'histoire moderne à l'UCO, et Olivier Gabory, chargé de mission à Mauges Communauté. On s'interroge sur l'état d'esprit des Mauges comme patrimoine immatériel pour une candidature à l'UNESCO.
Anne-Roland Boulestreau, donc vous êtes historienne et on en a parlé un petit peu dans la première partie. Vous faites partie du comité scientifique. Qu'est-ce que c'est que ce comité scientifique? Pourquoi a-t-il été mis en place?
Alors, c'est une démarche qui est très intéressante. Alors, un comité scientifique, quelles que soient les manifestations scientifiques qu'on organise, que ce soit les colloques, les journées d'études, aide à mettre, à poser la première pierre, à lancer les débats, à réunir autour d'une table les différentes personnes qui ont des compétences extrêmement différentes, justement, et qui peuvent apporter leur grain de sel, leur lumière, leurs questions aussi, parce qu'encore une fois, rien n'est tracé à l'avance. Donc, dans ce comité scientifique, vous avez des universitaires, mais vous avez aussi des gens des Mauges, des gens qui sont à la tête des industries, les hommes
vous
politiques.
Vous êtes combien?
On est 18.
18. Ouais. Et c'est vous, je vous parle à vous, Olivier oui. Gabory, représentant de la communauté de communes, qui avez cherché et nommé toutes ces personnes.
Alors oui, alors nommé, non, ce sont les élus, mais on a recherché lors de la composition des personnes, effectivement, soit qui avaient une compétence scientifique dans les sciences qui nous intéressent, et à côté, on voulait qu'il y ait ce dialogue, en fait, qu'à côté siègent des personnes des Mauges ou... parvenus dans les Mauges, mais qui partagent tous un trait commun, c'est-à-dire se sentir concernés par le sujet Mauges. Voilà, et donc ça donne des personnes vraiment très très différentes.
Je voudrais en revenir à la genèse. Comment ça vous est venu à l'idée? Comment cette histoire de vouloir inscrire cet état d'esprit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, comment vous en êtes arrivé là? C'est quand même tellement étonnant.
Au début, c'était presque une boutade. On partait du constat qu'effectivement, il n'y avait pas ce monument dans les Mauges. Enfin, en termes de patrimoine matériel, il y a des choses, évidemment, qu'on est en train de découvrir. D'ailleurs, les habitants des Mauges découvrent qu'il y a un patrimoine qui remonte bien au-delà des guerres de Vendée, parce que les guerres de Vendée ont souvent fait écran, en fait, à la connaissance de ce patrimoine-là. Donc ça, on le découvre. Et parallèlement... Ça revenait tout le temps qu'il y avait cette histoire d'état d'esprit. On s'est pris au jeu, on s'est dit, tiens, mais si on explorait ce champ-là, on a découvert l'existence des termes de patrimoine culturel immatériel. On s'est rapproché de Témonia, on a discuté. Et l'objectif, en fait, n'est pas tant d'aller à l'UNESCO que d'engager la démarche. Si ça va jusqu'à d'abord le national, parce que c'est d'abord le ministère, et pourquoi pas l'UNESCO, c'est très bien. Mais la démarche est... Faisons un bout de chemin ensemble.
Réfléchissons en communauté.
Exactement.
C'est bien l'état d'esprit des Mauges, ça.
C'est exactement ça. Et ça peut durer 3 ans, 4 ans, on verra. Mais c'est exactement ça que le comité scientifique a dit lors de sa première réunion. Et ça, c'est déjà un objectif en soi de marcher ensemble, d'interroger. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, on a conscience qu'on défriche. C'est-à-dire que l'UNESCO a déjà des cases. On peut faire reconnaître... des musiques traditionnelles, une recette de cuisine, un carnaval. Mais là, un état d'esprit, il n'y a pas la case qui existe.
Il
n'y
en a pas. Voilà. Ouais.
Et donc, on va voir si cette demande de notre territoire elle va créer un besoin, si on va pouvoir passer, évidemment, via le ministère et la DRAC, qui sont associés au comité scientifique, si on va pouvoir passer dans des cases où on co-crée ensemble.
Parlez-nous de Témonia, alors comment est-ce que ça va se passer?
Alors Témonia, en fait, ce sont des experts dans l'interrogation d'un territoire et de ses habitants sur des questions de patrimoine culturel immatériel. Donc là, dès ce week-end, par exemple, ils vont être présents dans une manifestation du territoire, un trail. Donc a priori, rien à voir avec l'état d'esprit. Mais là, on sait qu'il y a 2000 inscrits, dont des personnes qui sont intéressées par les Mauges. Et là, on va avoir un petit stand et on va demander aux gens de répondre à un certain nombre de questions. Ceux qui souhaitent être enregistrés, on les enregistrera. Et donc, il y aura ensuite une retranscription de tous ces enregistrements. Et puis après, dans un deuxième temps, avec le concours du comité scientifique, une analyse de toutes ces premières questions qui vont être posées. Là, on engage une première phase qu'on appelle exploratoire pour les 5 mois qui arrivent, pour voir s'il y a vraiment un sujet autour de cet état d'esprit des Mauges. Et l'analyse qu'on en fera, si ça nous dit collectivement avec le comité scientifique qu'il y a un sujet et que ce sujet c'est bien l'état d'esprit, alors on prendra au moins 2 ans, je pense, pour l'explorer largement et aller très largement auprès des habitants.
Vous y allez marche par marche, et ce qui vous intéresse, c'est le chemin?
Exactement. Voilà, ça résume très bien la démarche. Et à la fois, c'est les scientifiques du comité scientifique qui nous ont dit qu'il ne faut pas brûler les étapes, il faut faire les choses dans l'ordre. On ne peut pas comme ça griller. Et tout le monde qui disait, mais oui, le chemin, de toute façon, il en restera quelque chose. Même s'il n'y a pas UNESCO, même s'il n'y a pas une reconnaissance nationale, le plus important, finalement, c'est ce que nous, c'est le mouvement qu'on va créer localement.
Donc, Témonia, il vous aide à rentrer dans les cases UNESCO ou à créer une case UNESCO?
Alors, en fait, il nous aide à la fois à interpréter, à recueillir les témoignages, à les interpréter, et ils font le lien, effectivement, avec le ministère.
Parce ils ont que, des process, ils, ouais. ils le, c'est leur activité, en fait.
C'est leur activité. Ils ont fait remonter, comme ça, beaucoup de sujets, de territoires, vers le ministère, et ensuite, éventuellement, l'UNESCO.
Est-ce que vous avez, dans le cadre de cette démarche, déjà un logo ou un visuel qui vous identifie?
Alors, on a commencé à la première réunion par s'interroger sur le titre, ce qui est compliqué. Alors, comme le disait Anne tout à l'heure, finalement, une des caractéristiques qu'on dit souvent des gens des mouches, c'est que c'est des faiseux, mais des taiseux, des taiseux. Et donc, on va demander à des gens des mouches de s'exprimer, alors que c'est... Ils sont de réputation des taiseux. Donc finalement, ce n'est pas simple comme exercice, c'est peut-être même contre nature. Et on a cherché un titre, un sous-titre, et on a trouvé, vraiment, ça a été assez rapide, moi j'ai été surpris, un titre qui est Limoges, virgule, quel esprit, point d'exclamation, point d'interrogation. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une évidence, on l'affirme, ce qui est dans les mots, j'ai un exercice, et à la fois, mais une fois qu'on a dit que c'était un esprit, mais il y a quoi derrière cet état d'esprit? Voilà. Donc on en est là aujourd'hui à ce titre, les visuels vont arriver dans les mois qui viennent.
Et parce qu'on parle, sur l'autoroute quand on passe, près de Cholet entre autres, les mots, l'usine à la campagne, est-ce que ça fait partie des...
Oui, c'est une réalité. Alors, il y avait quelques années en arrière, je crois que c'était une banque qui avait sponsorisé des panneaux à l'entrée de tous les bourgs, une terre d'harmonie, des hommes d'énergie, tous les bourgs des Mouges, hein, c'était ça. Les Mouges, c'est 125 000 habitants, et c'est effectivement la deuxième agglomération du Maine-et-Loire en termes de population, et la deuxième zone économique du Maine-et-Loire. Sauf que c'est pas une grosse zone d'activité qui est concentrée dans une ville, ce sont des usines, c'est une industrialisation qu'on appelle éclatée en fait. Et notamment avec l'épopée des usines de chaussures, dont l'apogée a été dans les années 70.
Est-ce que ça a un lien avec le commerce de bovins dont on parlait tout à l'heure ou pas?
Alors,
du tout?
Pas forcément, on s'est dit effectivement, il y avait du cuir, donc c'est logique, ouais. Et apparemment non, on croyait cela, et toutes les personnes qu'on interrogeait, en tout cas en l'état actuel des recherches, n'ont pas trouvé ce lien évident.
Non, et pour une raison très simple, c'est que le commerce des bovins dont on parlait tout à l'heure, et c'est là où ça demandait beaucoup de technicité, tu emmenais les bovins vivants jusqu'à la caisse de Poissy, qui était une caisse fiscale en fait, pour rentrer à Paris, et c'est là où tu tuais les bœufs de bonne qualité, d'ailleurs, à tel point qu'on les appelait les cholets. Quand on avait des bœufs de bonne qualité à Paris, ça s'appelait les cholets. Et donc le cuir, en fait, ça n'aurait pas été rentable de le redescendre et de le traiter de nouveau dans les Mouges. C'était vraiment des bêtes vivantes sur pied qu'on emmenait et qui faisaient, vous voyez, traversaient plusieurs provinces. Donc,
Qu'est-ce qu'elles font maintenant, vos usines? Parce que la chaussure s'est cassée la figure.
Dans les années 90, oui.
Il y a eu une grosse période de chômage. Ça a été
Alors en fait, il y a eu une courte période de chômage.
C'est pas une grosse période de chômage, c'est une courte.
Elle a été importante, mais courte.
Oui, il y a eu une hémorragie, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu une hémorragie. Dans les années 70, une chaussure sur quatre fabriquée en France l'était dans le Choletais. Donc c'était vraiment énorme. Important. Des milliers d'emplois, parfois même dans certains villages, autant d'emplois que d'habitants dans la commune, et tous autour d'une mono-industrie, on va dire la chaussure, la mode. Et donc ça, c'est hyper périlleux le jour où, comme dans certaines régions du Nord, par exemple, avec les aciéries, le charbon, cette industrie se casse la figure. Et il y a beaucoup de, il y a des géographes ou des chercheurs qui avaient prédit une fin assez rapide du territoire des Mouges, parce que justement, reposant sur un seul pied, et donc une grosse fragilité. Et ce qui s'est passé en très peu d'années, c'est qu'aujourd'hui, on est quasiment en situation de plein emploi. Alors ça reste toujours fragile, évidemment. Et donc les emplois qui ont été perdus dans la chaussure, alors d'une part, il existe toujours des entreprises de la chaussure dans les Mauges, dont des grands noms. Ça n'a pas fini pour tout le monde. Voilà. Mais par ailleurs, tous ces emplois perdus dans la chaussure se sont retrouvés dans d'autres types d'entreprises sur le territoire. Les gens n'ont pas migré.
Quel type d'entreprise ?
Alors, ça peut être dans le para-agricole. Notamment, ça peut être dans les menuiseries, beaucoup de menuiseries, alors menuiseries bois, alu, métallerie, etc. Et en fait, il y a une diversification, alors que c'était un emploi féminin et peu qualifié. Parce que les femmes à 14 ans, ou les hommes, le patron de l'usine venait voir les parents et disait « lundi, ton fils ou ta fille travaille dans l'usine ». Et c'était comme ça. Et les enfants, en fait, ont ramené le salaire jusqu'à leur majorité dans la famille. Donc, on s'est retrouvé parfois avec des personnes à 4-5 ans de la retraite qui avaient passé toute leur vie dans des entreprises de chaussures sans diplôme préalable, mais un vrai savoir-faire qui est reconnu. Parce que ce que cherchent justement les industriels quand ils s'implantent dans les Mauges, pour ceux qui ne sont pas des Mauges, c'est le savoir-faire de cette main-d'œuvre, en fait, qualifiée de besogneuse. Voilà, c'est gens où qui aiment travailler ici.
Qui sont sérieux, qui sont...
C'est ce qui se
qui
dit.
Qui ne demandent rien, qui... Ouais, voilà,
ouais, c'est ce qui se dit. Ouais. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on vous réinvitera dans quelques temps pour avoir la conclusion de l'affaire, savoir où vous êtes arrivé, ça c'est sûr.
Pas tout de suite, quand même.
Non pas tout de suite.
Compris,
on a compris que ça prenait un peu de temps, quelques années.
Vous avez c'est un chemin.
Vous diriez quoi?
Oui, oui, on s'est donné quelques années. Alors, on ne connaît pas le terme.
C'est vraiment au début, là.
Oui, c'est ça. Là, on lance la démarche.
Ouais. Ouais.
Et en fait, ce challenge, il est dicté par votre état d'esprit. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est parce que vous avez un état d'esprit particulier, très, très besogneux, très, très, très
solidaire,
curieux, solidaire, qu'aujourd'hui, vous voulez savoir de quoi votre état d'esprit est fait.
Peut-être, effectivement, que cette action-là est une traduction de ce que sont les Mauges. C'est possible, tout à fait. Ouais.
Tout est possible.
Merci Anne-Roland Boulestreau, Olivier Gaboury.
Merci.
Et puis bonne
chance
pour la suite de cette belle aventure.
À bientôt.
Merci, au revoir.
C'est la fin de ce Franche Culture. 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci beaucoup à Elliot pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h et bien sûr en podcast. N'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.